VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, le tribunal militaire a inculpé le général Gilbert Diendéré de complicité dans l'assassinat en 1987 de l'ancien leader révolutionnaire Thomas Sankara. C'est ce qu'a annoncé dimanche le directeur du tribunal. Un membre de la famille Sankara, Mousbila Sankara, a déclaré que l'accusation avait été portée contre le général la semaine dernière, mais n'avait pas encore été rendue publique. Le général Diendéré fait déjà face à des accusations ayant trait à la tentative de coup d'État perpétrée contre le gouvernement de transition. En septembre dernier, le directeur du tribunal, le colonel Sita Sangaré, a confirmé la nouvelle accusation à la société de presse hier. Sécurité au Mali, Washington et Bamako ont signé un accord dans ce domaine, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la gouvernance et la sécurité SGI, annoncée en août 2014 par le président américain Barack Obama. Le compte-rendu de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les SGI est une nouvelle entreprise conjointe entre les États-Unis d'Amérique et six pays africains dont le Mali. Il offre une approche globale visant à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité et de la capacité à répondre aux menaces diverses. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Dans le domaine de la défense, l'initiative SGI met l'accent sur la capacité du ministère de la Défense à élaborer, diffuser et à superviser sa propre politique de unité. Avec la police nationale, l'initiative SGI va soutenir les efforts maliens pour faire en sorte que la police puisse recruter, retenir et promouvoir les agents motivés de manière transparente. Sur le plan judiciaire, le partenariat SGI va accompagner le ministère dans la mise en œuvre du plan d'urgence.
À travers cette collaboration, les États-Unis d'Amérique et le Mali travailleront à améliorer la capacité des institutions du secteur de la sécurité et de la justice pour mieux protéger les civils et à affronter les défis et les menaces avec intégrité et responsabilité. Déjà, techniciens maliens et américains dans le domaine de la sécurité et de la défense ont identifié les cibles de cette nouvelle initiative. Tchaman Iber Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali.
Vous savez que nous sommes dans le cadre d'une LOPM, la loi d'orientation et de programmation militaire. Et cette LOPM a besoin d'un soutien technique pour que la planification de l'emploi des ressources puisse être faite de manière efficace. Donc c'est cet appui-là que les États-Unis d'Amérique entendent nous apporter.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Crise libyenne, un projet d'accord politique pour sortir la Libye du chaos a été annoncé hier par des représentants des deux autorités rivales qui se disputent le pouvoir dans le pays. Idriss Fall.
Ce texte a été négocié dans le plus grand secret au cours d'une réunion en Tunisie sans la participation de l'ONU. Selon l'AFP, les délégués se sont mis d'accord pour la formation d'un comité paritaire de 10 membres qui devra choisir un premier ministre et deux vice-premiers ministres d'ici 2 semaines. Un autre comité de 10 membres sera chargé d'amender la constitution de 1963. C'est la première fois que des représentants des factions rivales se rencontrent sans médiation extérieure. Les deux parlements, celui de Tripoli et celui de Tobrouk, devront entériner ce projet, ce qui n'est pas gagné d'avance. De son côté, Martin Kobler, nouvel émissaire de l'ONU en Libye, a souligné que seul le projet d'accord négocié au Maroc début octobre était capable de mettre fin au conflit. Ce texte prévoyait déjà un gouvernement d'union nationale, mais avait été rejeté par les deux parlements. Une conférence internationale sur la Libye doit avoir lieu le 13 décembre. Le pays vit dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 et depuis un an, deux partis rivales se disputent le pouvoir, ce qui a aussi permis au groupe État islamique de gagner du terrain en Libye.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En République centrafricaine, réaction du gouvernement de transition à la déclaration du chef du FPRC, Noureddin Adam. La semaine dernière, l'ex numéro 2 de la coalition Séléka avait indiqué qu'il n'y aurait pas d'élection dans les localités du nord du pays sous son contrôle. Hier dimanche, le porte-parole du gouvernement a qualifié ses propos de déclaration de guerre au peuple centrafricain. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Paguindi, n'est pas passé par quatre chemins pour rendre Nour Edin Adam responsable des souffrances du peuple centrafricain. Pour le gouvernement, le chef du Front populaire pour la restauration du Centrafrique, FPRC, branche de l'ex-Séléka, veut rappeler son vieux projet de partition du pays avec la création de sa république, dite République du Logone. Selon le porte-parole du gouvernement, Nour Edin Adam se déclare l'ennemi public numéro un de l'unité, de la paix et de la réconciliation nationale, valeur pour lesquelles le pape François a plaidé lors de sa visite à Bangui. Il demande de ce fait à la communauté internationale d'appuyer les forces de défense et de sécurité intérieure en vue de mettre fin aux agitations de Nour Edin Adam. La semaine dernière, l'ex numéro 2 de la coalition Séléka a clairement indiqué sur les ondes d'une radio nationale que les élections n'étaient pas possibles dans les zones sous son contrôle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Tchad, nouvelle série d'attentats suicides ce week-end dans la région du lac Tchad où l'état d'urgence est en vigueur. Des kamikazes se sont fait exploser samedi en plein marché hebdomadaire de Koulfoua, localité située dans les îles du lac. Bilan 19 morts selon le gouvernement, mais les sources indépendantes parlent de 27 victimes. Le point avec notre correspondant Anjamina André Kodmajingar.
Trois kamikazes ont fait exploser leurs charges respectivement au marché central, au marché de poissons et dans une ruelle de cette localité située dans les îles du lac Tchad. Selon des sources indépendantes, ces attentats ont fait environ 27 morts, dont trois kamikazes et plus de 80 blessés. Dans un communiqué officiel, le gouvernement tchadien donne un bilan de 19 morts, dont 4 kamikazes et 130 blessés. Ce triple attentat suicide a eu lieu au moment où la région est sous le régime de l'état d'urgence institué à l'issue du Conseil extraordinaire des ministres tenu le 9 novembre 2015. Cette mesure est accompagnée par des actions de développement socio-économique dont les principaux sont l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation. Le président de la République a instruit son ministre des Finances de mettre immédiatement à la disposition des ministres de tutelle une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Au premier ministre chef du gouvernement d'accorder une attention particulière au dossier administratif des ressortissants de la région du lac. À en croire le président Déby, ces mesures visent à lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays considérée comme principale porte d'entrée de la secte Boko Haram. Ces explosions qui ont endeuillé une fois de plus les familles tchadiennes montrent que la secte Boko Haram, quoi qu'on dise, qu'elle est décapitée, constitue une menace réelle pour la population civile. André Kodumajingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Le président rwandais Paul Kagame a reproché hier à Kigali à la communauté internationale de s'immiscer dans les affaires du Rwanda. Rappelons que le Parlement rwandais a adopté le 17 novembre un projet de révision constitutionnelle qui doit encore être ratifié par référendum. Une révision qui autorise Paul Kagame à se représenter en 2017. Washington a exhorté M. Kagame à quitter le pouvoir à la fin de son mandat en 2017. L'Union européenne a estimé pour sa part que cette réforme et révision constitutionnelle dans l'intérêt d'un seul individu perd en crédibilité. Aux États-Unis, le président Barack Obama s'est engagé hier à traquer les terroristes partout où ils se trouvent. C'était lors d'une allocution solennelle à la Maison-Blanche, Ann Albertson.
Pour le président Obama, il n'y a pour l'instant aucune indication que les tueurs aient été dirigés par un groupe terroriste depuis l'étranger. Mais il est clair, ajoute-t-il, que ces deux personnes avaient suivi la voie délétère de la radicalisation. Monsieur Obama a appelé notamment les groupes de technologie à rejoindre la lutte contre l'État islamique à la propagande très active sur les réseaux sociaux. Nous allons détruire le groupe État islamique et toute autre organisation qui chercherait à nous nuire, a assuré le président Obama, qui a appelé les musulmans à lutter contre les idéologies extrémistes. Les États-Unis ne se laisseront pas entraîner dans une guerre terrestre en Irak et en Syrie, a-t-il dit aussi. Une coalition dirigée par les Américains mène une campagne de frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak depuis plus d'un an. Le président américain a enfin appelé le Congrès à légiférer pour renforcer le contrôle des armes individuelles, les tueurs de San Bernardino ayant facilement et légalement pu se constituer un véritable arsenal.
En France, le parti d'extrême droite Front National, FN, est arrivé dimanche largement en tête lors d'élections régionales dans le pays. Le premier scrutin en France depuis les attentats djihadistes meurtriers du 13 novembre. Le FN a obtenu au premier tour un score national record de 28% des voix et s'est revendiqué premier parti de France, devançant l'opposition de droite 27% et les socialistes du président François Hollande 23,3%. 5%. Un deuxième tour est prévu le 13 décembre. Ces régionales continuent le dernier test électoral avant la présidentielle de 2017. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.